Bonjour à tous. On va prier. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu nous permets à chacun, de chacun à notre niveau, de pouvoir te servir, marcher avec toi. Et nous voulons encore nous placer devant toi ce matin, devant ta parole, et voir ce qu'elle nous enseigne. Merci parce que tu veux nous faire porter du fruit. Et vraiment, nous voulons nous soumettre aussi à tes voix, à ta parole, pour pouvoir porter du fruit aussi, Seigneur, et pour porter du fruit à ta gloire. Amen. Alors, ce matin, alors j'ai proposé de... En fait, j'ai préparé une série de messages que j'ai donné à Rumingen. Et je me suis dit, bon, je peux aussi en faire profiter mon assemblée à Lambersart. Donc j'ai commencé en fait à prêcher à Rumingen sur les paraboles de Matthieu, chapitre 13. Et donc là, je vais commencer avec la première parabole de ce chapitre. Donc c'est Matthieu, chapitre 13, on va lire du verset 1 à 9, et ensuite du verset 18 à 23. Donc c'est la parabole du semeur et des terrains. Alors ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Alors le Seigneur, il nous donne l'explication un petit peu plus loin. Au verset 18, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. » Alors le Seigneur nous parle dans cette parabole de quatre terrains, qui représentent quatre cœurs, plus ou moins disposés à recevoir la parole et donc à porter du fruit. Donc on va passer en revue ces quatre terrains pour voir ce que le Seigneur nous enseigne à travers ces images. Alors on commence par la semence qui tombe le long du chemin. Le Seigneur nous dit que c'est celui qui écoute la parole, mais ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé. Alors un chemin, c'est une voie de terre. C'est de la terre plus ou moins tassée, selon la fréquentation du chemin. La terre est plus dure et moins perméable à la pluie du ciel que la terre travaillée. Alors je dirais que la terre décrite par cette image du chemin pourrait donc représenter un cœur endurci et qui est devenu plus ou moins imperméable à l'œuvre de l'esprit. Alors qu'est-ce qui rend donc ce cœur si dur? Et pourquoi la parole ne peut-elle pénétrer dans ce cœur? Alors la raison nous est donnée par le Seigneur. La personne entend la parole mais ne la comprend pas. La parole n'est pas comprise, peut-être parce qu'elle se heurte au mur de la raison. Cette personne essaye de comprendre cette parole avec sa pensée, comme cette graine qui reste en surface au lieu de s'enfoncer dans la terre. La parole arrive au niveau du cerveau et reste bloquée là, sans descendre jusqu'au cœur. Vouloir tout comprendre, n'est-ce pas orgueilleux ? N'est-ce pas à cause de l'orgueil que le cœur de Pharaon a été endurci ? Le cœur orgueilleux n'accepte que ce qu'il comprend. La personne qui reçoit la parole le long du chemin, c'est donc une personne qui entend la parole, mais qui cherche à la comprendre d'un point de vue charnel. Le cœur a été endurci par l'orgueil et la démarche est vouée à l'échec. Comment peut-il en être autrement si le cœur est devenu imperméable à l'œuvre de l'esprit ? On peut lire dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, versets 12 à 14. Alors, verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » L'homme naturel, charnel, cherche à comprendre les choses spirituelles avec la sagesse humaine, mais il ne peut les comprendre. Elles sont folies pour lui. Et si elles sont une folie pour lui, n'est-ce pas facile pour le diable d'enlever ses paroles ? De la même façon qu'il est facile pour des oiseaux de picorer les graines qui sont en surface sur le chemin, parce que ces graines restent en surface, il est facile pour le diable d'enlever les paroles dans l'esprit d'un homme qui essaye de comprendre la parole de Dieu avec sa propre intelligence. Alors comment faire pour empêcher le diable d'enlever ses paroles, pour empêcher les oiseaux de manger la graine ? Il faut que cette graine s'enfouisse dans le sol. Il faut que cette parole descende de notre cerveau à notre cœur. Alors le roi David nous dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Il ne dit pas « Je serre ta parole dans mon cerveau. » La parole doit bien descendre du cerveau au cœur. Alors que veut dire « Je serre ta parole dans mon cœur » ? On peut prendre dans Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ce passage ne décrit-il pas parfaitement le cœur orgueilleux, le cœur représenté par le chemin ? Le cœur orgueilleux n'agit-il pas ainsi ? La personne a entendu la parole qui agit comme un miroir pour nous montrer toutes nos imperfections, nos faiblesses, face au Dieu trois fois saint, qui nous montre notre état de perdition. Cette personne est partie et a oublié. Pourquoi ? Parce que cette parole n'était pas pour elle. Elle ne la concernait pas. Elle ne s'est donc pas appropriée la parole et ne l'a pas mise en pratique. N'est-ce pas une description du cœur orgueilleux ? Mais celui qui met en pratique la parole, c'est parce qu'il a compris qu'il était concerné. Il s'approprie la parole, il la fait sienne. La parole alors descend dans son cœur. Si nous n'obéissons pas à la parole, celle-ci reste une folie pour nous. Ce que nous enseigne la parole reste impossible à mettre en œuvre d'un point de vue humain. Le diable a vite fait nous inciter à mettre de côté cette parole que l'on ne peut comprendre. Mais si nous obéissons à la parole, nous expérimentons la vérité de la parole. Ce que Dieu dit, il le fait. Cette parole alors pénètre en nous. Nous la vivons. Et personne ne peut ensuite remettre en question ce que nous avons vécu. Pas même le diable. Il ne peut nous enlever cette parole. Nous savons ce que nous avons vécu. Alors, le deuxième terrain, c'est la semence qui tombe dans les endroits pierreux. On voit que la semence lève aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Le Seigneur nous dit que c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors je voudrais d'abord réfléchir avec vous sur ce que représente le sol, la terre. Le problème ici est que la plante n'a pas pu s'enraciner correctement dans le sol. Alors le sol, c'est un mélange complexe de différents constituants. Dans un sol fertile, on trouve une fraction minérale, des cailloux, du sable, de l'argile, tous des minéraux. On trouve aussi une fraction organique, l'humus. Alors que peuvent représenter ces différents constituants si le sol représente notre cœur? Alors l'image des cailloux m'a fait penser au passage d'Ézéchiel 11, versets 19 à 20. C'est Dieu qui parle au sujet du peuple d'Israël. Merci. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ne voit-on pas ce cœur de pierre, page après page, quand on observe le manque de foi et d'amour pour Dieu du peuple d'Israël? On peut lire dans Colossiens 2, verset 7. On peut prendre à partir du verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Et dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors ces deux passages nous parlent d'être enracinés dans l'amour de Christ. Le premier nous dit aussi être affermis par la foi. Nous sommes affermis grâce à un solide ancrage. Pour la plante, ce sont ses racines qui assurent l'ancrage dans le sol. Deuxième passage nous parle aussi de la profondeur de l'amour de Dieu. Et c'est bien ce qui manquait à cette plante. Le sol était peu profond. Alors ce cœur représenté par les endroits pierreux est un cœur qui ne connaît pas la profondeur de l'amour de Dieu. Il nous est dit que cette plante, quand le soleil parut, sécha faute de racines. Si nous ne sommes pas enracinés dans l'amour du Seigneur, si nous n'avons pas compris l'étendue de cet amour, si nous n'avons pas aussi cette foi dans notre cœur pour nous accrocher aux promesses de Dieu, quand l'épreuve arrive, nous flétrissons, notre foi s'éteint. Par contre, de même qu'une plante bien abreuvée et enracinée va souffrir un peu par grand soleil, mais ensuite grandit grâce à ce soleil, ce même soleil, de même un chrétien abreuvé de l'esprit, ancré dans l'amour et la foi, va grandir, alors grâce ou à travers les épreuves. Alors on a évoqué l'amour, la foi comme élément essentiel à nos cœurs pour porter du fruit et pour tenir ferme dans les épreuves. On pourrait ajouter l'espérance qui permet de tenir dans l'épreuve parce que nous avons en vue notre cité à venir. On peut prendre aussi dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on a vu ensemble ce que représente le sol. Il y a toutes ces choses qui sont utiles pour nous aider à porter du fruit. Mais que représentent ces pierres qui peuvent être dans notre cœur, qui prennent la place de l'amour, de la foi, et qui nous empêchent de porter du fruit? Quels sont ces poids, ces fardeaux dans notre cœur? Alors, je dirais que ces cailloux représentent probablement les blessures du passé, le ressentiment, l'absence de pardon, qui nous empêchent de comprendre réellement l'amour de Dieu. Donc examinons chacun, chacune, notre cœur pour discerner ce qui empêche cet amour de Dieu de prendre toute la place en nous. Comment pourrons-nous porter du fruit si cet amour n'habite pas en nous? Alors on peut passer ensuite à la semence qui tombe parmi les épines. La parabole nous dit les épines montèrent et l'étouffèrent. Le Seigneur nous dit que c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors avant de commencer cette partie, je voudrais d'abord m'arrêter sur le terme porter du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire porter du fruit ? Alors jusqu'ici, j'ai parlé de recevoir la parole, au sens d'entendre la parole. Mais l'Évangile nous dit aussi que Jésus-Christ est cette parole incarnée. Donc cette graine qui est plantée et qui germe et se développe, n'est-ce pas aussi Jésus-Christ qui est reçu dans le cœur par l'Esprit Saint et dont le caractère se développe en nous ? La graine tombe en terre, germe, prend racine, se développe d'abord de façon cachée, sous terre, mais bien vite fait surface pour continuer son développement et porter du fruit. Ces fruits permettent à leur tour de disséminer les graines, de propager la vie. Alors de même, quand Jésus-Christ est reçu dans un cœur, il se développe d'abord de façon cachée, au plus profond du cœur, mais bien vite, le développement de Christ en nous se manifeste au dehors, aux yeux de tous. Et ce développement de Christ en nous nous donne de manifester son caractère, de réaliser les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Cette manifestation du caractère de Christ permet de manifester la vie en nous et autour de nous. Alors je dirais que porter du fruit, c'est porter la vie en nous et autour de nous. Alors maintenant qu'on a vu ce que signifie le développement de cette graine, on peut revenir aux épines. Ces épines sont déjà présentes dans le sol. On pourrait dire que les épines et les mauvaises herbes sont naturellement présentes dans le sol. Les graines sont souvent déjà présentes ou arrivent avec le vent. Et une fois au sol, ces graines poussent avec une rapidité surprenante. Si bien que si vous plantez une graine sans la surveiller ensuite, elle sera vite étouffée par mauvaises herbes et épines. Les bonnes graines prennent beaucoup plus de temps à se développer que les mauvaises. Alors que représentent ces épines déjà présentes dans le sol, dans notre cœur? N'est-ce pas notre nature charnelle? Dans la nature, les plantes sont en compétition entre elles pour leur nourriture, ce qu'elles puissent dans le sol, mais aussi pour la lumière. Et que fait une plante qui manque de lumière? Cette lumière qui lui est indispensable pour vivre. Elle va grandir excessivement pour chercher cette lumière, mais cette croissance sera anormale. On dit que la plante s'étiole. Sa tige s'allonge, mais sans une structure solide. Ses feuilles deviennent plus petites. Elle blanchit, faute de pouvoir synthétiser la chlorophylle. Son système racinaire ne se développe pas bien non plus. Une plante qui s'étiole est une plante chétive, sensible aux maladies, qui ne peut pas porter du fruit. De même, le développement de Christ en nous est en compétition avec notre chair et tout ce que le monde peut offrir. Et ce développement de Christ en nous est un processus qui prend du temps. Non pas parce que Dieu ne peut pas agir rapidement en nous, mais parce que souvent nous sommes lents à apprendre et obéir. Notre chair, les soucis, les convoitises du monde ont vite fait de prendre toute la place en nous, ne laissant au Seigneur que peu de place pour régner. Et comment porter du fruit si le Seigneur ne règne pas en nous? Le Seigneur nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors de même que les épines occupent le terrain, qu'est-ce qui occupe notre cœur, nos pensées, notre esprit? On va prendre dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. J'étais jusqu'au verset 4. Nos pensées sont-elles remplies par la télévision, les jeux vidéo, le sport, le travail, l'argent, ou par l'œuvre de Dieu et son royaume? On a tous à s'examiner. Comme on a vu plus haut, ces choses ont tendance à s'installer très rapidement dans nos cœurs, dans nos vies. Alors, on en vient à la semence qui tombe dans la bonne terre. Le Seigneur nous dit « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Bon, en lisant l'ensemble du texte, on peut se dire qu'il y a 4 cœurs différents, 4 façons de recevoir la parole. Et bien sûr, nous aimerions tous être le terrain qui porte du fruit, et non les autres terrains. Mais l'ordre que le Seigneur a utilisé pour nous présenter ces 4 terrains n'est pas sans importance, je pense. Et on peut également voir ces quatre terrains comme le processus de l'œuvre de Dieu en nous. Le jardinier qui veut semer dans un terrain abandonné, dont la terre avec le temps s'est un peu tassée, doit commencer par retourner le terrain, briser les mottes de terre. Cela permet d'aérer le sol, permet à la pluie de mieux pénétrer dans le sol, et cela ramène en surface les cailloux. Le jardinier peut alors enlever les cailloux et semer. Le jardinier veille ensuite, pendant la croissance des plantes, à enlever toute mauvaise herbe, toutes les épines. De même, le Seigneur doit souvent commencer par nous briser, par briser notre orgueil, notre résistance. Nous devons réaliser que sans lui, nous sommes perdus et que sa parole nous concerne. Le Saint-Esprit peut alors pénétrer en nous et commencer son œuvre en nous. Le Seigneur veut ensuite nous faire découvrir son amour, faire grandir notre foi. Et il veut pour cela ôter, guérir les blessures du passé, tout ce qui empêche de réaliser pleinement son amour, pour que nous soyons enracinés en lui. Il veut nous restaurer. Ensuite, il nous sanctifie, il nous met à part, nous éloigne des convoitises de ce monde en arrachant de nos vies tout ce qui n'est pas à sa gloire, pour qu'enfin nous puissions porter du fruit. Alors, pour conclure, je dirais, où en es-tu avec le Seigneur ? Vas-tu le laisser travailler ton cœur pour que tu puisses porter du fruit ? As-tu accepté d'être brisé par le Seigneur ? As-tu compris que la parole de Dieu te concerne ? L'as-tu laissé enlever toutes les blessures du passé ? Le laisses-tu te guérir ? Visiter toutes les profondeurs de ton cœur ? Pour ramener en surface les plaies qui doivent être pansées ? Le laisses-tu te restaurer ? Comprends-tu son amour infini ? Le laisses-tu enfin arracher certaines choses dans ta vie pour te mettre à part, te sanctifier et t'amener à délaisser les vanités de ce monde ? Si tu ne laisses le Seigneur accomplir toute cette œuvre, tu ne pourras porter du fruit, manifester la vie autour de toi et en toi. Alors gloire à Dieu de ce que c'est lui qui fasse cette œuvre en nous, de même que ce n'est pas le sol qui se travaille de lui-même, ce n'est pas nous mais Dieu qui fait cette œuvre en nous. Alors demandons-lui simplement dans la prière pour que nous puissions porter des fruits à sa gloire. Amen.